Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui a été enregistrée le 25 février. La musique a été fournie par notre invité, mais comme nous avons parlé un peu trop longtemps, les pauses musicales seront écourtées. Et contrairement à l'habitude, je ne les désannoncerai pas au fur et à mesure. Je vous indique donc tout de suite ce que nous allons écouter. Donc successivement, une version turque de la Maknovchina par le groupe Bandista. Can Bosch Box. Bon. Comment nous ont-ils influencé? Je suis absolument désolée pour la prononciation. Ensuite, une chanson sur la guerre au Kurdistan par Ahmet Kaya. Puis Brûle tout par Douman, tout ça en turc bien sûr, et nous finirons avec une version turque aussi de Alas Barricadas par Bandista. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour, donc une nouvelle émission Trou Noir aujourd'hui autour d'un livre L'antimilitarisme en Turquie avec Orly Stern qui est avec nous et qui va se présenter un petit peu quand je vais passer la parole juste après. Donc disons que c'est un livre, donc oui, que je dise quand même, il est publié à l'ACL, à l'atelier de création libertaire. Donc il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, à la fin de l'année dernière, en octobre, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, en voilà. Octobre, je crois.
Et qui nous a beaucoup intéressés. Alors à la fois, évidemment, parce que ça parle d'antimilitarisme en Turquie, que ça parle aussi du mouvement anarchiste qui est lié effectivement à l'apparition relativement récente de ce mouvement antimilitariste, mais aussi parce que on apprend beaucoup de choses sur le militarisme justement en Turquie, d'où vient ce militarisme, qu'est-ce que ça veut dire exactement, en quoi c'est lié ou pas aux origines lointaines, plus ou moins lointaines de l'histoire de la Turquie. Donc on va avoir une occasion d'en parler. Et moi, j'ai appris énormément de choses. Et en plus, ça nous permet peut-être de mieux comprendre l'attitude du gouvernement turc actuellement dans les événements qui se passent au Moyen-Orient, par rapport à Daesh, par rapport à tout ça. Enfin, ça permet d'avoir des explications. Voilà. Donc, je pense que c'est un bouquin extrêmement riche au niveau, en tout cas, de son contenu. On n'aura pas le temps de parler de tout. Mais l'idée, c'est quand même d'encourager les gens à l'acheter, à le lire et en tirer parti, parce qu'il y a beaucoup de choses à en retenir, je pense. Voilà. Donc, avant de rentrer un peu dans le bouquin, est-ce que tu peux te présenter rapidement comment aussi tu as été amené à t'intéresser à la Turquie et plus particulièrement à l'antimilitarisme?
Alors, en fait, ça a commencé avec deux passions différentes. Je dirais une passion sans borne pour la Turquie. Ça fait 7 ans que je vis au Moyen-Orient, en Turquie, et j'ai aussi vécu un petit peu au Liban. Et la deuxième passion, je pourrais pas dire que c'est une passion, mais c'est plutôt un intérêt politique par rapport à l'anarchisme. Au début, j'aurais voulu travailler sur le mouvement anarchiste en Turquie. Comme j'étais en train de faire mon master au Liban, il fallait que je trouve un sujet. Et j'en ai parlé à une amie turque qui m'a tout à fait déconseillée en me disant « Mais tu te rends pas compte, le mouvement anarchiste en Turquie, c'est un mouvement extrêmement récent et donc tu vas te retrouver à interviewez-vous une 30aine de militants, mais ça va pas être un thème suffisamment vaste pour que tu puisses écrire vraiment un mémoire de master. Et c'est elle, en fait, qui m'a conseillé de travailler sur l'antimilitarisme en me disant que, comme la Turquie est un pays militariste, en fait, ça allait me permettre de toucher à tous les aspects politiques et à l'histoire de la Turquie depuis même l'époque ottomane. Et donc, c'est comme ça que je suis partie dans ce projet.
Et tu fais un travail universitaire autour de la Turquie. J'ai vu que tu avais déjà fait des mémoires sur les relations diplomatiques. Alors, tu dis, si je dis une bêtise, c'est une mémoire. Entre la Turquie et la Suisse, c'est peut-être une façon de te tendre la perche pour te dire quand même, t'es d'origine suisse.
Ouais, je suis d'origine suisse. À l'époque, j'étais à l'université à Genève. C'était mon mémoire de licence. Et comme l'université de Genève n'est pas du tout axée sur le Moyen-Orient, j'essayais de trouver une petite porte pour pouvoir parler de la Turquie. Et c'est pour ça que j'ai fait les rapports diplomatiques entre la Suisse et la Turquie. J'avais un professeur qui était spécialiste de l'histoire soviétique. Et donc, j'ai pu travailler sur les archives parce qu'en fait, la Turquie était un petit peu un avant-poste occidental qui espionnait en fait l'Union soviétique depuis la Turquie. Et donc j'ai trouvé des choses incroyables, c'est que dans les archives suisses, il y avait en fait plein de rapports secrets qui parlaient de leurs activités en Turquie. Apparemment, tous les services secrets européens se trouvaient là-bas à l'époque. Mais ça, c'était plus petit, c'était pour la licence.
Voilà, bon, on va avoir l'occasion d'ailleurs de parler de ça, parce que bon, même si je pense, enfin, on en a parlé un petit peu là, avant l'émission, mais je pense que la Turquie, la réalité en tout cas turque, de l'État turc, et aussi plus particulièrement des gens qui vivent en Turquie, qui sont multiples, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est assez peu connu, quoi. Par contre, bon, l'image qu'on en a comme ça pour aller très vite, c'est effectivement, c'était un peu un avant-poste, enfin, on en parlera un peu plus quand on développera dans le bouquin, un avant-poste de l'OTAN. Quoi. C'était vraiment quelque chose, une sentinelle utilisée comme telle par rapport à l'Union soviétique quand ça existait, etc. Donc ça, je pense quand même, c'est plus ou moins plus ou moins ressenti. Mais en dehors de ça, d'abord, on verra avec toi que c'est beaucoup plus complexe que ça, sans doute, les rapports avec l'Occident. Mais en dehors de ça, finalement, je pense qu'on connaît relativement peu de choses en France. Hein, je ne dis pas dans tous les pays. Hein, donc c'est vraiment une approche, ton livre, on va le voir, je pense, au moins partiellement, puisqu'on ne parlera pas de tout, une approche de cette réalité turque. Bon, avant de te poser la première question, bon, je tiens quand même à souligner que, bon, à la fois, tu as regardé des documents divers et multiples, et tu as fait quand même pas mal de rencontres, tu as fait pas mal d'interviews. Tu as aussi participé à un certain nombre de choses, manifestations, réunions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, qui donne le côté historique, mais aussi le côté tout à fait actuel, hein, puisque c'est des rencontres que tu as fait dans les années proches, quoi. Et donc, ça lui donne quelque chose de très intéressant, ce livre, parce que c'est à la fois un livre actuel et un livre d'histoire, finalement. Moi, je l'ai ressenti comme tel. Alors, si tu veux, pour démarrer, on pourrait remonter encore très très loin. Je pense que c'est important de parler de la fin de l'Empire ottoman, parce que beaucoup de choses pour la Turquie, et pas que pour la Turquie d'ailleurs, pour le Moyen-Orient, sont mis en place. Et beaucoup de problèmes d'ailleurs qui sont résultants encore aujourd'hui à ce moment-là. Donc si tu peux parler rapidement, qu'est-ce qui s'est passé justement autour de la guerre de 14, la fin de l'Empire ottoman, et ce que tu décris d'ailleurs en gros, je pense, dans les débuts du livre. Hein.
Voilà, donc en fait, à la fin de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman était appelé l'homme malade de l'Europe parce qu'il n'avait pas su s'industrialiser comme c'était le cas en Occident. Et donc, il y a eu une tentative de moderniser la société ottomane. Et cette modernisation a commencé par l'institution militaire. Et donc, il y a eu par exemple des experts qui sont venus d'Italie, de France et par la suite d'Allemagne. Qui sont venus pour aider. En fait, ouais, d'abord, il y a beaucoup d'écoles qui ont été ouvertes. Et donc, ces experts ont été engagés comme professeurs dans les écoles. Il y a eu aussi les premiers échanges, entre guillemets, Erasmus de Turquie. Donc, des étudiants d'écoles militaires qui partaient en Europe pour apprendre des techniques modernes. Et donc, ça a créé une espèce de nouvelle classe, on pourrait dire, de nouvelle classe sociale. qui, par la suite, avec le premier conflit mondial, et même à la enfin, avant, quand on parle des jeunes turcs, en fait, c'est des jeunes qui sortaient de ces écoles-là, c'était cette élite déjà modernisée et moderniste. Et avec le premier conflit mondial, en fait, l'Empire ottoman a perdu la guerre. Et donc,
oui, parce que l'Empire ottoman était avec les puissances de l'Axe.
Voilà.
Et ben, ils n'avaient pas choisi, enfin, pas choisi le camp de ceux qui ont gagné, en tout cas. Et pourquoi d'ailleurs, tiens, tu as une idée pourquoi ils ont pris ce choix d'être du côté de l'Axe ? C'est juste une question personnelle. C'est difficile à dire par rapport à l'époque.
Là, comme ça.
Je crois qu'il y avait des contacts un peu avec l'Allemagne, de toute façon.
C'est ça, ils étaient très proches de l'Allemagne déjà. Enfin, à la fin de l'Empire ottoman, les 20-30 dernières années, c'était presque plus que des instructeurs allemands qui venaient dans leurs écoles.
Oui, parce que d'ailleurs, quand tu parles justement de cette modernisation de l'armée, après, quoi, qui va se mettre en place de plus en plus, tu parles d'instructeurs allemands, enfin, c'est un peu à l'image de l'armée allemande, ça a été mis en place, non ?
C'est ça, et notamment la géopolitique qui a été introduite en tant que science, en fait, la cartographie aussi. En fait, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement le maniement des armes ou des choses comme ça. Je sais pas, la Turquie a toujours été très proche de l'Allemagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont aussi failli se mettre rangés du côté des Allemands.
Oui, parce qu'ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1945, si je me souviens bien.
Le dernier jour de guerre, en fait, c'est ça qui est complètement incroyable et hasard. Donc ils ont vraiment attendu la dernière minute pour être sûrs.
De l'avoir bien choisi.
Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ils ont pu participer au pourparlers de paix. En tant qu'acteur de la guerre à laquelle ils ont participé pendant un jour.
On revient à la Première Guerre mondiale.
Cette fois-ci, ils ont perdu. Et en fait, le pacha de l'époque a signé avec les gagnants. Et il y a un jeune homme, un militaire, qui a été mandaté pour aller désarmer en fait, toute la Turquie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les Anglais, les Français, les Italiens qui l'ont fait ? Parce qu'en fait, déjà, militairement, ils étaient épuisés. Ils avaient combattu sur des tas de fronts à la fois. Donc, ils ont fait confiance aux autorités ottomanes pour aller désarmer. Et en fait, ce gradé militaire qui s'appelait Mustafa Kemal, qui était déjà un héros de guerre, à la place de désarmer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remobilisé. Et donc, ils ont recommencé la guerre. Parce que le traité qui avait été signé en 1920, le traité de Sèvres, réduisait les territoires ottomans en peau de chagrin, créait un Kurdistan, une grande Arménie, etc. Et en fait, après ce réarmement et ce nouveau conflit qui a été gagné contre les Grecs, les Anglais, les Français, etc., un nouveau traité a été signé, qui est le traité de Lausanne en 1923, qui a accordé un territoire à la République de Turquie beaucoup plus vaste que ce que ça devait être, et qui n'accordait pas de Kurdistan aux Kurdes, et qui réduisait aussi le territoire de l'Arménie. Et c'est aussi ce traité dont on parle énormément ces temps-ci, parce qu'en fait, c'est aussi celui qui dessinait les frontières de la Syrie, de la Palestine et du Liban. Et donc, de l'Irak. Et donc, on en parle beaucoup aujourd'hui avec la guerre, parce qu'on dit que finalement, c'est le traité de Lausanne qui est en train d'être remis en question avec cet éclatement des frontières au Moyen-Orient arabe.
Oui, la division. Enfin, en fait, pour résumer, les États qui ont été mis en place, je mets un peu à part la Turquie, puisque là, tu vas le développer, mais les États qui ont été mis en place, Irak, Syrie, etc., en fait, étaient au départ sous protectorat. Enfin, l'Angleterre et la France les sont partagés, étaient sous protectorat. C'est des frontières relativement artificielles qui ont été mises en place, et ces frontières-là finalement sont remises en cause aujourd'hui, notamment à travers l'action de Daesh et toutes ces choses-là, qui connaît très bien cette histoire-là, Daesh, on ne va pas développer là-dessus, mais qui joue justement en disant bah oui, ces frontières sont des frontières qui ont été mises en place à cette époque-là, et nous on les remis en cause. D'ailleurs, ils sont à la fois en Irak et en Syrie, et ils jouent pas mal là-dessus. Donc Et puis un deuxième aspect aussi qui est important, enfin qui a été mis en place cette fois par l'État turc, c'est que, comme je pense que tu vas nous expliquer comment, ils ont mis en place, ils ont remis en cause évidemment ce qui était à l'époque le califat et aussi le sultanat et enfin tout ce que l'Église contrôlait. Et c'est pas pour rien que Daesh relance le califat aujourd'hui, qui a été finalement qui s'était arrêté à ce moment-là.
Exactement. Donc en fait, le califat ottoman, il était quand même remis en question par plusieurs pays musulmans. Moi, je dirais qu'il avait une semi-légitimité. D'ailleurs, pendant la guerre, ils ont essayé de... Enfin, les Ottomans ont essayé de lancer un djihad pour que des musulmans de plein de pays viennent les soutenir. Ça a marché un petit peu, mais pas complètement. Pourquoi ? Parce que c'était un pays qui n'est pas arabe, en fait. Et comme le Coran est écrit en arabe... Il y a des pays qui disaient, non, mais c'est pas vraiment légitime que des gens qui puissent pas lire le Coran dans les textes puissent avoir le califat. Mais effectivement, c'est la dernière fois dans l'histoire qu'on a un califat, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est ce que Daesh essaye de faire, en fait, justement, refaire un califat. Mais il y a eu énormément de réformes. Enfin, Mustafa Kemal, plus tard, il s'est fait lui-même appeler Atatürk avec l'introduction des noms de famille qui n'existaient pas à l'époque. En fait... Il a complètement changé le visage de la société ottomane, maintenant on peut dire de la société turque. Notamment, il a interdit le port du voile dans l'espace public, il a interdit le fait de se marier avec quatre femmes, il a introduit un code civil, un code des obligations, etc. Enfin, inspiré de plusieurs pays occidentaux. Il a dit aux gens comment les gens devaient se vêtir. En fait, il a vraiment créé un nouveau citoyen. Par exemple, à l'époque, les sectes religieuses portaient des sortes de turbans différents pour montrer à quelle secte musulmane elles appartenaient. Parce que souvent, on parle de l'islam de manière générale, mais en fait, il y a énormément d'écoles différentes dans l'islam et de sectes différentes. Et donc, lui, il a instauré une loi du chapeau. Tout le monde devait porter un chapeau à l'occidental. Justement pour parce qu'il a interdit ces sectes-là, parce qu'il voulait avoir un pouvoir total, en fait. Il a joué le rôle d'architecte de la société. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un visionnaire. Il a changé l'alphabet, il a modifié la langue, il a épuré des mots arabes et persans, en tout cas d'une partie de ces mots-là. Certaines personnes considèrent que c'était un visionnaire, mais on peut aussi dire que la société a certainement énormément souffert de ça. Parce que d'un coup, il fallait complètement changer ses habitudes. Et notamment, un changement de l'alphabet, je ne sais pas si tu peux imaginer que d'un coup, tous les gens qui étaient l'intelligentsia, enfin les gens cultivés de la société, ne savaient plus lire. Parce qu'ils connaissaient l'alphabet arabe, et d'un coup, bah, c'était les enfants qui pouvaient lire, mais les intellectuels, en fait, n'étaient plus capables...
Je voulais te poser une question, justement, en lisant ton livre, ça m'a fait penser à une émission qu'on avait fait avec un anthropologue, Jean Monod, tu vois pourquoi je parle de ça. Et lui, il travaille beaucoup sur l'apparition des États et sur le rôle des Églises dans l'apparition des États. Et bon, je ne développe pas là-dessus. Et par contre, il dit que dans un certain nombre de pays, on voit que la religion qui était en place, etc., dans une certaine mesure, est remplacée par une religion d'État. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Partiellement, en tout cas, c'est la façon dont tu vois toutes ces choses-là qui sont mises en place à ce moment-là.
Oui, alors je pense tout à fait qu'on pourrait dire qu'il y a la mise en place d'une religion séculaire qui est le nationalisme turc. Et qu'en fait, Atatürk, il arrive même à contrôler la religion en décrétant que tout le monde... Enfin, que 99% des Turcs sont des musulmans sunnites. Il crée une instance, en fait, où c'est lui qui peut nommer les imams. Et donc, en fait, il devient maître de la religion, alors qu'en fait, tout le monde sait très bien que c'était un alcoolique notoire, qu'il était athée, etc. Mais c'était parce que, voilà, il pouvait pas, à cette époque-là, ça c'est mon analyse, mais qu'il pouvait pas interdire la religion, ce qu'il aurait pu apprécier, mais c'était quand même trop pour un empire qui avait eu le califat, etc. Donc, il a décidé de l'aseptiser, de la mettre tout à fait sous le contrôle du parti unique, en fait, de son parti. Et je pense que le nationalisme avait plus d'importance et que la religion devenait une part du nationalisme, mais une espèce de couleur, simplement.
De toute façon, si, j'essaie d'imaginer à l'époque, je pense que, enfin, je connais évidemment pas le personnage, mais je pense que c'est lui ou les gens qu'il conseille n'étaient pas complètement idiots, parce qu'ils arrivent finalement, enfin, via l'armée et puis une certaine popularité, certainement, puis ils ont libéré le pays, mais ils ont un pays avec une multitude de, contrairement à ce que tu dis, 99%, enfin ce qu'il disait, avec une multitude d'ethnies différentes, de religions, de nuances dans les religions, etc. Donc il avait absolument besoin, et notamment par exemple les Kurdes qui étaient quand même extrêmement nombreux, à qui on avait plus ou moins laissé, pas lui, mais on l'avait laissé entrevoir qu'il y aurait peut-être un état du Kurdistan. Hein, enfin les alliés avaient. Donc ils se sont retrouvés complètement. Hein. Donc. Pour maintenir le pouvoir, ils avaient effectivement besoin de créer quelque chose comme ça, du super solide, quoi. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas, j'imagine ça comme ça. Enfin, toi qui as étudié plus mieux sa période, est-ce que c'est ça que tu penses?
Oui, je pense que c'est exactement
donc,
ça.
Donc le nationalisme servait d'unité, quoi. Militarisme.
Voilà, il a essayé de créer un modèle de citoyen turc complètement homogène. Et depuis le départ, en fait, il s'est protégé de toutes les revendications, qu'elles soient religieuses ou ethniques, etc. En fait, il a essayé d'effacer toutes les identités. Et donc déjà, encore de son vivant, il y a déjà eu des bombardements sur les régions kurdes, etc. En fait, son idée, c'était simplement que on peut venir, on peut avoir n'importe quelle origine, mais que de manière contractuelle, dans ce nouveau État, tout le monde doit se considérer turc et doit se considérer sunnite.
Oui, si on insiste un peu sur la période, c'est qu'on le verra par la suite. C'est bon, y compris même, pourquoi pas, certains islamistes aujourd'hui se revendiquent plus ou moins, même s'ils sont en opposition avec le militarisme, enfin, du moins le poids des militaires dans la société. Il y a plein de gens qui se revendiquent encore aujourd'hui de Kemal, enfin, de Mustafa Kemal. Enfin, peut-être qu'ils l'utilisent à leur sauce, hein, ça j'imagine.
Je pense qu'ils l'utilisent. Je pense que tout le monde a une photo de Mustafa Kemal dans son bureau ou dans son restaurant ou n'importe où.
Bah oui, c'est ça, c'est un mythe. Quoi.
Voilà, c'est un mythe, mais en même temps, la KP qui est actuellement au pouvoir et qui fait tant parler de lui, on dit souvent qu'il serait plutôt néo-ottomaniste. Donc là, pour l'instant, il ne peut pas attaquer la figure de Kemal directement, mais très certainement qu'ils aimeraient bien. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, la République de Turquie a un petit peu été une erreur historique et qu'il faudrait retourner... Enfin, oublier cette erreur et retourner à la période ottomane, c'est un petit peu ce qu'Erdogan voudrait faire.
Oui.
Et d'ailleurs, sur plein d'images, ça peut être les photographes qui font ça, mais on voit vraiment beaucoup d'images avec Erdogan devant le portrait d'Atatürk. Et je pense que c'est pas vraiment pour dire qu'il poursuit le travail qu'a fait Atatürk, mais je pense que c'est plutôt quelque chose de... Il entre dans une rivalité, en fait.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ben, d'ailleurs, tu en parles un petit peu à la fin de ton livre, mais en même temps, il y a une rivalité. Mais est-ce que, sur le fond qu'il y a derrière, c'est-à-dire un pouvoir... j'avais noté des phrases de ton livre. Le pouvoir de revenir en militaire, enfin, ça, c'est du temps d'Atatürk. Hein. Ben, évidemment, on ne va pas dire en militaire, mais ils ne vont pas mettre l'islamisme directement. Mais enfin, le pouvoir, ils tiennent, enfin, du moins ceux qui sont avec Erdogan, ils tiennent quand même à le conserver. La souveraineté s'acquiert par la force, la puissance et la vigilance. Bon, c'est peut-être pas ce qu'ils affirmeraient aujourd'hui, mais enfin, bon, tu parleras peut-être un peu du régime actuel. C'est pas une dictature, mais enfin, c'est quand même un régime hyper fort. Donc, ce côté d'unité qui maintient un peu par la force un peu unité dans ce pays, y compris les islamistes, enfin, certains islamistes aujourd'hui, pas tous sans doute, mais en tout cas, ceux qui sont au pouvoir, ils sont un peu sur les mêmes positions, même si c'est pas la figure peut-être d'Atatürk tel qu'il était à l'époque qui reprenne. Ils utilisent bien sûr le fait qu'il y a des portraits partout, mais...
En fait, la KP a joué une politique extrêmement opportuniste.
Oui.
Parce que maintenant, ils sont complètement dans le militarisme, ils font la guerre aux Kurdes, etc. Mais on oublie qu'avant les élections de 2007, ils avaient une politique complètement opposée en disant que les minorités en Turquie n'avaient jamais été entendues, qu'on allait leur donner la parole. Ils allaient draguer les Kurdes en disant qu'en fait, l'ethnicité, c'était pas important, que c'était l'islam qui... Enfin, ils ont fait énormément de promesses aux minorités, et pas seulement aux Kurdes, mais aussi aux chrétiens, ou en fait, à toutes les minorités de Turquie. Et c'est eux qui ont été les champions de l'accord de paix avec les Kurdes, quand même.
Oui, d'accord.
Ils ont repris la guerre parce que, en fait, les Kurdes se sont autonomisés. Ils ont créé un propre parti politique et d'un coup, ils ont arrêté d'être un soutien de l'AKP, mais ils sont devenus une sorte de... Enfin, de rival politique. Et du coup, c'était extrêmement facile de recommencer cette guerre pour les délégitimer. Et en fait, Erdogan, là, il a joué la carte de nationaliste, alors qu'à l'époque, il était avec les Kurdes contre les nationalistes. Donc, c'est vraiment un jeu d'alliance comme ça. Et à mon avis, l'AKP, peut-être qu'à l'époque, ils avaient une réelle idéologie, mais je pense qu'ils n'en ont plus du tout.
Là,
je
pense ils ont l'idéologie de garder le pouvoir, quoi, en fait.
Voilà,
et comme ils ne sont pas idiots...
Ils ont seulement une idéologie de garder le pouvoir.
Ils sont, effectivement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'ils ont eu, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je ne crois pas trop aux élections, mais bon, ça reflète quand même. Ils sont montés peut-être jusqu'à 40 et quelques pourcents. Donc, ils ont réussi à développer un certain nombre de choses où il y a un certain nombre de gens qui se sont retrouvés en eux, enfin, sur ce que tu as dit, par rapport aux minorités, par rapport pourquoi pas aux Kurdes et tout ça.
C'est ça, mais en 2002, quand ils ont gagné leurs premières élections,
ça, voilà,
c'était
2002.
Assez révolutionnaire, en fait. Il y a énormément de gens qui croyaient en eux et qui avaient peur qu'un coup d'État ait lieu contre eux. Donc, c'était vraiment... Ouais, je sais pas, c'était un espoir, en fait, pour beaucoup de gens qui, maintenant, sont complètement opposés. Les dernières élections, ils n'ont pas fait 40%, en fait. Ils en ont fait 30%. Mais après avoir recommencé la guerre, avoir annulé les élections et en avoir refait, ils ont eu 40%. Déjà, on ne sait pas si les élections se sont passées d'une manière tout à fait régulière. Et même si c'est le cas, c'était clairement un chantage. Comment est-ce qu'on peut gagner 10% de plus après 2 mois de guerre et d'attentats? Enfin, c'est parce que peut-être que les gens qui ont voté, ils pensaient que la guerre s'arrêterait... pour ça, quoi.
Bah écoute, je propose qu'on fasse une première pause musicale et puis on reprendra justement après Atatürk et tout ça, à voir un peu comment ça s'est passé, parce qu'il y a encore beaucoup de traces aujourd'hui.
Cina, rüzgarına dalgalanır Öfkemiz de kara bayrak Kanımızla kızıldır Öfkemiz de kara bayrak Kanımızla kızıldır Dağlarda ve ovalarda Karaltında rüzgarda Bir uçtan uca ufkuna Yürüyordu partizan Bir uçtan uca ufkuna yürüyordu partizan. Sovyet kaldı ilkbaharda, beyaz orduya tutsak. Sonbaharda Magnolia koparttı zincirini Sonbaharda Magnolia koparttı zincirini Magnolia, Magnolia rüzgarına dalgalanır Öfkemizle kara bayrak kanımızla kızıldır Öfkemizle kara bayrak kanımızla kızıldır İşbirlikçi beyaz ordu zaferi kutluyordu Halk öfkesi Magnolia koparttı bir fırtına Halk öfkesi Magnolia koparttı bir fırtına Magnolia, Magnolia birliğidir partizanın Savaştı Sovyet uğruna parti ve beyazlarla Savaştı Sovyet uğruna parti ve beyazlarla Thank you. Magnocina, Magnocina, figli di partisan, son suza tekseleceğiz, bütün iktidarları. Son suza tekseleceğiz, bütün iktidarları. Magnocina, Magnocina, biz yarınla dalgalanır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır. Öfkemizde kara bayrak, kanımızla kızıldır.